Bienvenue à chacun et à chacune. Nous poursuivons notre parcours de quelques théologiens et quelques théologies du XXe siècle. Et donc, nous nous étions dit que cette grande figure qu'est Jacques Ellul pourrait être l'un des sujets de nos soirées. À la fois parce que Jacques Ellul a été remis au goût du jour ces dernières années, parce qu'il a inspiré quelques penseurs, quelques hommes politiques, parce que on a découvert une figure réformée intéressante et que du coup les réformés se sont réappropriés cette figure-là, à tel point que même Stéphane s'est mis à écrire sur Jacques Ellul. Au point de commettre cet ouvrage aux éditions Olivetan, un ouvrage qui est tout à fait lisible, Jacques Ellul, l'espérance d'abord. Donc je pense que c'est bien de commencer par là, en fait, quand on veut lire Jacques Ellul.
C'est une bonne porte d'entrée. J'ai fait un très bon bouquin, donc allez-y.
Voilà. Mais on s'est dit que rien de tel que de faire parler l'auteur, en fait, parce que Jacques Ellul est quelqu'un qu'on a un peu instrumentalisé, je crois, et on a tous tendance à savoir mieux que Jacques Ellul ce qu'il sait, et en fait, tu fais partie de ceux qui l'ont vraiment lu, notamment. Donc, je pense que c'était mieux de te laisser la parole. Donc, Stéphane Lavignotte, qui est ministre de l'Église protestante unie, on l'a bien connu parce qu'il était notamment pasteur à la Maison Verte dans le 18e. Maintenant, tu es chargé de mission.
Voilà, je travaille dans la Maison Verte, c'est la mission populaire. Donc je suis pasteur de l'Église protestante unie à la mission populaire. Et je travaille sur un projet de construction d'un nouveau lieu pour la mission populaire en Seine-Saint-Denis. Les lieux de la mission populaire sont à la fois des paroisses et, puis souvent et en même temps des maisons de quartier ou centres sociaux. Voilà.
Donc nous avons à peu près 1h30 devant nous pour que tu nous présentes le Jacques Ellul que tu connais, mais aussi le Jacques Ellul que tu aimes, et puis qu'on ait un temps de discussion, de débat avec toi, selon ce que tu nous auras présenté ou caché.
D'accord, merci. Bon, moi j'ai déjà été présenté, donc pas besoin d'en dire beaucoup plus. Sinon qu'avant d'être pasteur, j'étais journaliste. Et avant de commettre ce bouquin l'an dernier, il y a 10 ans, au moment des 10 ans de la mort de Jacques Ellul, on avait fait pour Réforme un hors-série, parce que Ellul écrivait beaucoup, et il écrivait notamment beaucoup dans Réforme. La première une de Réforme en 1945, c'est un article d'Ellul avec un titre tonitruant, ça s'appelle « Victoire d'Hitler ». C'est-à-dire que Hitler vient de perdre la guerre, et la une de Réforme, le premier numéro avec un article de Jacques Ellul, c'est « Victoire d'Hitler », et c'est juste après les bombardements de Dresde et des villes allemandes. Et Ellul écrit dans son texte « Nous avons peut-être gagné la guerre, mais en rasant Dresde, en rasant ces villes allemandes, nous avons utilisé les mêmes méthodes qu'Hitler, et donc c'est lui qui a gagné la guerre ». Voilà, pour vous donner un peu le ton de Ellul polémiste. On y reviendra peut-être dans la discussion, mais c'est notamment ce ton polémique qui à la fois lui a donné beaucoup dans le contexte beaucoup d'écoute, et en même temps l'a fâché avec beaucoup de monde. Une autre anecdote, il avait au moment où sont installés les préfets de la République après-guerre, il fait un tyran dans chaque département, voilà, pour Réforme. Et Réforme perd un nombre d'abonnés incroyable dans les préfectures en France. Donc, ça pouvait lui causer quelques inimités. Ce que je voudrais. On m'avait demandé de venir sur le Jacques Ellul théologien. Je trouve que c'est une bonne idée parce que. On va peut-être commencer par là. Vous demandez-vous comment vous connaissez Ellul, mais souvent il n'est pas trop connu pour son aspect théologique. Et pour refaire de la pub pour le bouquin, un des avantages, c'est que beaucoup de livres sortent, et c'est tant mieux parce que c'est une grande partie de son œuvre et c'est pas la moins intéressante, sur sa pensée sur la technique, sa critique de la technique. Et souvent, la partie théologique est mise de côté. Voilà, c'est très, très français de mettre coupé en deux la pensée d'un auteur en mettant de côté la pensée croyante parce que ça colle pas avec notre conception de la laïcité. Et donc, je vous parlerai plutôt du Ellul théologien. Vous verrez que ça a beaucoup de liens avec le reste de sa pensée. Mais peut-être, oui, que les uns les autres dans le premier temps. Vous, Elulf, vous, ça vous dit quoi, même vaguement? Ça peut ne rien vous dire ou vous rattachez à quoi
Moi, je peux vous dire que, premièrement, je ne suis pas protestante, je suis catholique. Et j'ai connu Elul à travers les livres de Jacques Guilbault, de Jean-Claude Guilbault, qui le cite, enfin, qui met toujours à la portée du plus grand nombre des concepts qui sont peut-être mal compris, et qui citait toujours son maître. Et donc, c'est par ce biais que j'ai commencé à lire des choses.
D'accord. Voilà, parce que Guilbault était notamment éditorialiste à Sud-Ouest, et quelqu'un de la région de Bordeaux, et Elul est directeur du Seuil. Et Elul donc a passé toute sa vie en Girondin, entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon, et très éloigné de Paris, ce qui lui a forcément facilité la place dans le débat intellectuel français.
Il a voulu, je crois, aussi.
Oui, c'était son. Il a voulu son côté un peu. Vous verrez, ça va avec sa théologie notamment.
C'est son côté girondin, quoi.
Son côté girondin, voilà. D'autres.
Alors, moi, j'aurais tendance à dire que Elul fait partie de la bibliothèque de l'Honnêteton. Oui. En France, c'est-à-dire à un titre ou à un autre, on le trouve souvent. Et pourquoi on trouve assez souvent, je trouve, cité ici ou là c'est parce qu'il me semble que son message, son analyse correspond vraiment aux temps actuels, tant sur les questions technologiques. On est en plein dans le vieux technologie où on pianote, on ne quitte jamais son temps est mesuré par la technologie, etc. Enfin, plein de choses de ce genre. Et puis, la croissance et décroissance, la critique du côté du productivisme. Pourquoi vivons-nous là, il y a deux thèmes, je trouve, qui font qu'ils remontent à la surface et ils suscitent l'intérêt. Et donc, il y a une. Conjointement avec les courants, qui une autre manière de produire et de travailler.
Et sur le, effectivement, sur la technique, alors que sans doute, y compris en raison de la force d'une pensée de gauche assez classique en France, tout était centré beaucoup sur la critique de l'économie, et en ayant une vision sur la technique un peu iréniste. Une technique où ça serait toujours bien la technique et les découvertes, et on ferait toujours ce qu'on veut de la technique. Et Elul, effectivement, ça a été en France un des principaux critiques de la technique. À la fois, ça l'a sans doute marginalisé en une partie du débat, mais en même temps, ça l'a rendu sans doute de plus en plus pertinent au fur et à mesure qu'on voit que la technique prenait de la place dans nos modes de vie. Et on disait, qu'est-ce qui fait qu'on a redécouvert Elul? Et à partir des années 2000, avec effectivement le début du mouvement sur le journal La Décroissance, le début de ce courant-là écolo, ce courant-là s'est mis à relire un certain nombre de penseurs d'écologie, notamment Elul, par la critique qui portait, critique forte qui portait de la technique. Et c'est vraiment ce courant-là, avec gens comme Serge Latouche, journal La Décroissance, qui à partir de 2000 ont vraiment. Remis au goût du jour, Elul, alors que depuis un certain nombre de gens comme effectivement Jean-Claude Guilbault, l'édition de la Table Ronde, La Fille d'Elul, Patrick Chastenet avec l'association internationale Jacques Elul, de manière très persévérante, réédité ses livres, mais un peu dans le désert, puis c'est à partir de 2000 qu'effectivement on a commencé à le redécouvrir. Quoi. Alors, il vient de sortir un livre qui s'appelle « Nous sommes des révolutionnaires malgré nous », qui est la réédition d'un texte de Charbonneau de 1936, je crois, qui s'appelle « Le sentiment de nature force révolutionnaire », qui n'avait jamais été édité, et qui est un texte très très intéressant sur le rapport à la nature, et avec notamment une critique du tourisme très très actuelle. Et à la réédition aussi dedans du manifeste personnaliste puisque Elul et Charbonneau dans les années 30 ont monté un groupe personnaliste dans la région de Bordeaux et ils avaient édité des directives pour un mouvement personnaliste qui sont rééditées dans cet ouvrage là avec deux trois autres textes.
Moi j'ai découvert Jacques Elul à travers la lecture du livre Anarchie-Christianisme et ça m'a la réflexion extrêmement intéressante Moi, je suis catholique à la base, je me rapproche beaucoup plus du protestantisme, justement, à travers cette notion de liberté, de croyance. Et pour moi, j'ai celui, un peu entre guillemets, le premier anarchiste.
Il y en a eu d'autres avant.
Comment ?
Il y en a eu d'autres avant.
Et je me suis retrouvé. J'ai trouvé que c'est une pensée qui était très éclairante, qui était très très humaine, qui avait vraiment une exclusion de toute forme de violence, notamment dans l'anarchisme, qui avait un côté très sulfureux de ce que c'était comme.
Bah dans ce livre, dans la présentation, je parlais de l'importance qu'a la Bible pour Ellul et dans l'archive christianiste, une grande partie de son raisonnement est d'abord un raisonnement qui s'appuie sur sa lecture biblique. Et dans ce livre-là, il y a effectivement beaucoup sa proximité avec les anarchistes. Je pense que c'est aussi la dimension de dissidence, de minorité, d'être sur la position la plus critique par rapport aux positions dominantes. Dans les années 60, il s'est senti assez proche du mouvement situationniste. Il avait voulu rejoindre le mouvement situationniste et ils n'avaient pas voulu l'accepter parce qu'il était croyant. Mais voilà, ça dit sa proximité, son questionnement dans le temps avec les mouvements libertaires. Et qui se traduit aussi par le fait que, par exemple, il était prof de droit. Donc à Bordeaux, il était prof de droit. Et très régulièrement, il était appelé comme témoin de moralité pour les procès d'objecteurs de conscience. Donc voilà, c'était le professeur de droit qui venait de toute son autorité défendre les objecteurs de conscience. Puis aussi le chrétien qui venait défendre ce droit à ne pas porter les armes pour défendre les objecteurs. D'autres.
Il y a un éclaircissement que je chercherai au demandeur. Je crois qu'il a des positions qui taxées dans l'antisémitisme. Je connais mal. Il y a une part d'ombre là.
Alors, ça, je crois pas. On pourra voir des choses sur l'islam, où il a dit des choses qui ont fait beaucoup polémique, sur le sida, où ça a fait beaucoup polémique, sur l'Afrique du Sud. Le judaïsme, ça serait plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on lui a reproché au contraire. Alors, pendant la guerre, il a participé à cacher des juifs. Il donne beaucoup d'importance. On verra au judaïsme et à la position de minorité du judaïsme comme façon d'avoir un mode de vie qui interpelle la société. Et ce qu'on lui reproche au contraire, c'était un soutien indéfectible à Israël, un soutien jusqu'au boutiste à Israël, qui, au fur et à mesure de l'évolution de la politique d'Israël, faisait de plus en plus polémique, et notamment dans un protestantisme qui s'est de plus en plus engagé à partir des années 80, même avant peut-être, en faveur des Palestiniens. Non, sur l'antisémitisme, c'est plutôt plutôt l'inverse qui lui était reproché. Ou alors, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Ouais.
Et alors toi, qu'en dis-tu de notre Jacques Ellul ?
Alors, moi, ce que je propose, c'est de vous passer un texte, pour commencer, à partir de la lecture de ce texte.
Peut-être on partage en deux, comme ça sera plus
vite. Ouais, ça ira plus vite, hein, vas-y. Hop, si on garde une autre, on va suivre. Est-ce que je laisse un temps à tout le monde pour le lire et puis je vais réagir
Peut-être que tu le présentes au fin de l'heure.
Oui.
Ou tu relèves quelques points qui semblent
pertinents. Je vais les refaire à mesure. Oui. Je vais les dire à mesure aux gens. Alors c'est un texte qui était paru, comme vous le voyez, dans Réforme en 1986 pour le 100e anniversaire de la naissance de Karl Barth. Le journal avait demandé à l'époque à un certain nombre de personnalités de demander pourquoi ils aimaient Barth. Ellul peut assez se revendiquer comme un théologien barthien. Je crois que vous avez eu une séance sur Barth,
oui.
À laquelle tout le monde a assisté.
Non,
bon, c'est pas très grave. Je redonne, enfin voilà, je Vous pourrez comprendre, même si vous n'avez pas assisté à la séance sur Barthes, il n'y a pas de problème. Donc, faut savoir que dans les années, à partir des années d'après-guerre, les positions barthiennes sont devenues très très présentes en France. Je pense qu'on peut même dire qu'elles étaient assez majoritaires dans le protestantisme français, en tout cas réformé. Faut savoir par exemple que dans les années 70, les deux grands ténors dans le protestantisme, c'était Georges Casalis, qui était tenant d'une position très à gauche, théologie de la Révolution, lui utilisait le marxisme sans problème, était adhérent au PSU, de la création du PSU, donc c'était un barthien de gauche, et son grand adversaire était un barthien, Jacques Ellul, qu'on pouvait qualifier plutôt du point de vue théologique, hein, comme barthien de droite, ce qui... Alors, il faut du coup perdre complètement les repères, parce qu'effectivement, si on dit qu'Élu, il était plus proche des anarchistes, ça devient compliqué. Il faut renoncer sur ces questions-là, à classer les gens sur un repère droite-gauche. Mais c'est pour dire un petit peu la prédominance qu'avait la pensée barthienne en France jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et donc, il explique pourquoi il s'intéresse à Barthes. Alors, il dit, il est très difficile pour un homme qui a rencontré la pensée de Karl Barthes il y a plus d'un demi-siècle de dire en quelques lignes ce qu'il fut pour cette génération qui avait 20 ans en 1930. Il me semble inutile de redire, après tant d'autres, l'apport de parole de Dieu, parole humaine, donc un bouquin de Barthes. Mais ce qui me semble d'abord important, c'est de rappeler le sentiment que beaucoup de jeunes protestants ont éprouvé d'un déblocage dans tous les domaines. Déblocage des oppositions traditionnelles dans l'Église entre orthodoxes, assez étroitement fidèles à la pensée de Calvin, et libéraux, qui cherchaient à faire prévaloir la raison et la science dans l'interprétation des données chrétiennes. Ça, c'est la lecture que fait Élu des libéraux. Cette opposition très violente entre 1820 et 1920 s'était peu à peu stabilisée, mais pour les jeunes de cette génération, ni les uns ni les autres n'avaient plus de crédit. Calvin restait bien étroit, scolastique et moraliste. Les libéraux paraissaient bien loin de ce que nous lisions dans la Bible, et tout d'un coup, Barthes paraît, qui déclare que si Calvin a raison, il faut repenser la révélation aujourd'hui, et non pas en termes du XVIe siècle, et que les libéraux ont apporté à la théologie une immense richesse de réflexion, de recherche, qu'il faut utiliser et repenser. Alors, je voudrais commencer par là, Jacques Ellul est vraiment quelqu'un de son temps, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser la construction de sa pensée entre les années 30 et puis 1945. Je parlais tout à l'heure de son ancrage dans le personnalisme. Vraiment dans cette période-là. Il faut le penser avec les deux auteurs qu'il cite, c'est-à-dire Calvin et Barthes. Il dit « Calvin a raison, il faut repenser la révélation aujourd'hui ». Alors le Calvin qu'on trouve dans Ellul est finalement un calvinisme assez classique, c'est-à-dire, et pas forcément ce qu'il y a de plus rigolo dans Calvin, c'est-à-dire une vision où l'homme finalement est vraiment l'homme marqué par la chute et la limite, c'est vraiment l'homme misérable. C'est-à-dire que il y a un parallèle souvent chez ce qu'on trouve chez Ellul très fortement et qui est vraiment très présent dans le texte de Calvin, c'est vouloir rabattre le caquet à l'humain qui voudrait toujours croire qu'il est fort, capable, toujours on la lui fait pas, etc. Alors c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui parce que le protestantisme c'est peut-être heureusement en partie détaché de cette dimension-là, parce que chez Calvin, une manière de dire ça pourrait être très, très écrasante pour les personnes. Mais cette insistance-là, c'est effectivement pour montrer, et Ellul va beaucoup critiquer, il dirait souvent, il y a une expression, c'est l'homme se jobard. Ça, c'est une expression vraiment des années 50, l'homme se jobard. C'est-à-dire croit toujours qu'il est complètement capable de faire les choses tout seul. Donc, par exemple, sur la technique, dire « mais oui, la technique, je peux complètement la maîtriser », et puis pas voir qu'il se fait complètement dominer, au contraire, par la technique. Alors ça serait ce côté-là de Calvin. Et le côté barthien, c'est vraiment l'insistance sur un Dieu tout autre. C'est-à-dire que Dieu, il est vraiment d'une autre nature et dans une autre dimension que le monde d'ici. Et donc, du coup, une critique sur le fait de refuser que quoi que ce soit dans ce monde soit de l'ordre du divin. Refus finalement qu'il y aurait dans ce monde-là quelque chose, on pourrait dire ça, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de Dieu. Donc on rejoint cette idée calviniste de on est dans un monde d'après la chute, dans un monde qui n'est pas de l'ordre de la perfection, de ce qu'il y avait avant la chute. Alors pourquoi ces deux idées-là par rapport aux années 30 les années 30, c'est ce que voit en tout cas Ellul et ce que voient les gens de sa génération comme les personnalistes, c'est au contraire, il y a une divinisation d'un certain nombre de réalités sociales et politiques. Donc c'est important de penser cette façon de rabattre la fierté de l'homme et de vouloir remettre le monde à sa place mondaine, quand on a en tête ce qui se passe dans les années 30, c'est-à-dire que de tous côtés, des pouvoirs politiques et des idéologies veulent transformer, diviniser des réalités humaines. La génération des années 30 et 45, elle a face à elle, d'un côté, le communisme, où c'est la puissance de l'État, du parti, du prolétariat, et puis qui doivent former un seul tout. Hein, l'adjectif de cette période-là, c'est tout, total, totalitaire. Aussi bien du côté des pouvoirs politiques, et la réponse barthienne va être aussi... d'ailleurs, il y a un journal barthien des années 30 qui s'appelle « Tout ». La réponse barthienne, c'est non, vous nous dites que c'est votre État qui est, ou c'est votre chef qui est tout. Non, pour nous, c'est Dieu qui est tout. L'Église confessante résistante de Barthes dans les années 30, un de ses textes principaux, ça va justement être un texte de la confession de Barmen, dans lequel on dit vous nous dites qu'il n'y a qu'un seul fureur, c'est Hitler. Nous n'avons qu'un seul chef, nous n'avons qu'un seul fureur, c'est Jésus. Voilà. Donc on est dans cette volonté de contrecarrer la divinisation et le tout qui est amené dans la société. Donc ça, côté communisme, côté nazisme ou fascisme, bien sûr, c'est un peuple, un Reich, un Führer, tout ensemble. Ça, on a du mal à s'en souvenir. Dans les années 30, on a aussi une critique très très forte du capitalisme, avec un des gros thèmes qui est très présent dans la pensée des personnalistes, c'est la critique des trusts. C'est-à-dire qu'on a dans les années 29-30 une concentration de l'économie. On pense après à Roosevelt qui fera des lois antitrust. Et on a une à nouveau des monopoles qui se créent dans l'économie. Et il y aura une très grosse critique venant notamment des courants personnalistes ou chrétiens de ce tout des monopoles, de cet argent qui domine tout. Il faut bien voir que ce qui sans doute frappe Ellul dans la pensée de Barthes dans les années 30, cette capacité à la fois d'opposer Dieu et tout à toutes ces idéologies qui disent non, c'est nous qui sommes tout, qui sommes le total de la réalité sociale. Ces idéologies qui transforment en Dieu l'État, le parti ou le peuple ou la race, etc., ou l'argent, le discours barthien va aller leur dire vous n'êtes rien, vous dites que vous êtes tout, mais en fait non, vous n'êtes pas les dieux que vous dites, nous n'avons qu'un seul Dieu. Donc il y a dans la pensée d'Ellul une façon de dire que tout ça n'est rien, c'est bien de l'ordre de la chute, c'est un moyen de dévaloriser toutes les puissances de ce monde-là. Une manière de contrecarrer et de répondre à cette domination qui s'impose. Oui.
Je voudrais savoir comment est-ce qu'il évite l'écueil de la théocratie.
Oui.
Très bien se rapproche du régime, comme tous les élèves-là, ou même de l'époque catholique un peu radicale, espagnole notamment. Comment il fait pour...
Alors, ça c'est... Euh, on, On y reviendra un peu plus loin, mais alors déjà, par exemple, parce que quand il dit toutes les réalités de ce monde sont de l'ordre de la réalité humaine, de la réalité de la chute imparfaite, et aucune n'est divine, eh ben, il dira la même chose pour la morale chrétienne. Il dira, voilà, pour toutes les morales, c'est-à-dire que il dira, ben ouais, la morale, c'est juste le pauvre bricolage que se fait l'homme pour pouvoir se diriger à peu près dans ce monde-là, mais la morale fait aussi partie de la réalité de la chute et elle ne peut pas prétendre être divine. Il fait un ouvrage en 1972 qui s'appelle « La subversion du christianisme » où il dit en gros, l'idéologie de Jésus est une idéologie subversive des pouvoirs et des dominations et elle a été subvertie, donc au sens négatif, par toutes les réalités culturelles qui l'ont intégrée. Elle a été transformée en philosophie par les Grecs. Elle a été transformée en pensée juridique. Donc on voit après pensée juridique le lien, par exemple, avec dans l'institution catholique le droit canon, etc., etc. Transformée en réalité juridique par les Romains. Et elle a été transformée, subvertie négativement en pensée de pouvoir par la chrétienté. Donc il fait une critique justement de la chrétienté. En disant pas plus les églises que les pouvoirs chrétiens ne peuvent se prétendre divins parce qu'ils sont de l'ordre de l'homme après la chute et juste du monde de la nécessité. Outre que pour lui un pouvoir chrétien, on y reviendra, ça n'a pas de sens parce que pour lui l'essence du christianisme, de la pensée de Jésus, c'est la non-puissance. Et de ce point de vue-là, le pouvoir, c'est par définition la puissance. On y reviendra un peu, parce que justement, sa position à lui, c'est d'être toujours en distance, en critique, en créant du dissensus. Il ne faut jamais être du côté du pouvoir.
Il peut être pour une théocratie sans être pour une ecclésiocratie, par exemple.
Ben, je pense que ce n'est pas non plus pour une théocratie, dans le sens où...
Barthes, il est quand même sur quelque chose qui s'impose massivement, non ?
Voilà, moi, je répondais pour... là, je parlais d'élus, hein, mais...
D'accord.
Je crois que Barthes aurait pu être pour une théocratie.
Théocratie qui, effectivement, disqualifie toute prise de pouvoir. Par exemple, chez Ellul, va se traduire par « il faudrait qu'on soit en assemblée générale permanente
». Alors, ça pourrait être l'idée que le seul pouvoir et notre seul maître, c'est effectivement Dieu. Donc, je dénie tout pouvoir, c'est ce qu'il rapproche des anarchistes, je dénie toute légitimité à tout pouvoir. Et donc, effectivement, être dans une position où on devrait trouver un système de fonctionnement hors de tout pouvoir. Je crois que c'est dans le livre Anarchie-Christianisme où il parle de la période des juges. Voilà. Le livre des juges qui est... et lui, il le lit. Alors il le lit en disant, voyez, il y a une période où on pouvait fonctionner sans État central et avec juste un système de fédération de petites villes ou de petites communautés, etc., et il s'appuie notamment sur, je crois que la fin du livre des Juges, c'est un truc du genre, il vivait sans roi et tout allait très bien, quoi. Bon, sachant que ce que disent les gens qui analysent le livre des Juges, plutôt les vétérotestamentaires, c'est que c'est plutôt un livre qui est écrit pour dire, regardez, c'est le bordel, il est temps qu'il y ait le livre des rois qui arrive après, quoi. Mais dans le livre des Juges, il sort d'autres textes, comme celui du buisson. De la fable de Jotam, il cherche les plantes cherchent un roi, et en fait toutes les plantes refusent parce que la vigne fait du vin, c'est quand même vachement mieux. Je sais plus quelles sont les autres plantes, je vais dire n'importe quoi. Le fraisier, c'est vachement bien parce qu'il fait des super fraises, etc. Ils ont tous mieux à faire qu'exercer le pouvoir. Il y a que le buisson d'épines hein, qui, lui, franchement, il a rien pour lui, donc il veut bien être roi, quoi. Et donc ça, Ellul en dit, regardez, dans la tradition biblique, il y a aussi ce courant anti-État, libertaire, etc.
Je crois que c'est peut-être pas le mot théocratie que vous adaptez, c'est plutôt le mot théonomie. Enfin, c'est-à-dire il y a même la présence d'une loi, mais une loi sans pouvoir. En fait, c'est comme ça que Müller à l'époque, un peu Calvin et Barthes,
c'est-à-dire qu'on se fonde sur une parole divine qui fait loi, en fait.
Un fondement fort, un logos qui est là,
Le pouvoir n'arrive jamais à le transcrire complètement en acte.
Donc il laisse le champ libre à l'anarchie.
Non, mais je... Parce que c'est pas le terme de théonomie, c'est ça?
Oui. C'est Denis Muller qui l'a fait dans un petit livre qu'il a fait sur Calvin.
Alors, voilà, ça c'était donc... pour commencer un peu sur la question de Barthes, alors pour dire que cette critique-là de dire toutes les réalités du monde, les remettre à leur place, c'est pas forcément non plus, il va dire à d'autres endroits, et lui, c'est pas non plus forcément pour les dévaloriser. C'est-à-dire que... le problème, c'est quand ces réalités du monde se prennent ou deviennent des réalités divines, le propre de l'homme après la chute, c'est que justement, il n'est plus en communion directe avec la nature, il a besoin de travailler pour manger, etc. Et en fait, il a besoin d'objets qui font la médiation avec le monde. Et que donc, oui, il a besoin de la ville pour habiter, il a besoin des vêtements pour s'habiller, etc., etc. Que tant que c'est, il a besoin pour son rapport au monde, que c'est de l'ordre du monde de la nécessité. Tant que ça reste de l'ordre de la nécessité, des objets dont on garde le contrôle, ben, il n'y a pas de problème. C'est quand on croit que ça devient de l'ordre du divin, ou que ça devient, ou que c'est là qu'on a sa liberté. Que là, il peut y avoir le danger. Et c'est en ce sens-là aussi qu'il est très calviniste, parce qu'il y a, il y a un texte que moi j'aime beaucoup chez Calvin dans le traité de l'institution chrétienne qui s'appelle le traité d'usage des biens terrestres, qui est un passage qui est d'une modernité incroyable aujourd'hui sur le rapport à la consommation et à la consommation, aux objets, etc. Qui dit par exemple sur les fleurs, il dit mais Calvin, on s'attend pas à ça dans un texte de Calvin, il dit voilà, Dieu a créé les fleurs, s'il a fait toute cette diversité de couleurs, c'est pour qu'on profite vraiment de la diversité de la beauté des fleurs, s'il a fait avec des odeurs, c'est pour qu'on les renifle, c'est le terme de Calvin en vieux français, pour qu'on les renifle et qu'on profite de l'odeur, s'il a fait une diversité de tissus, c'est pour qu'on puisse faire des tissus de différentes qualités et qui soient beaux et dont on profite de la beauté. Mais attention, tant que on n'est pas les yeux coincés sur les tissus et qu'on ne regarde plus Dieu. Et s'il a fait des nourritures si différentes, c'est pour qu'on profite de la diversité des goûts, mais pas, attention, hein, pas s'en priver et ne plus penser qu'à la nourriture et ne plus penser à Dieu. Donc il y a cet usage des biens qui sont de l'ordre de la nécessité, dont on peut en profiter, mais qui doit, dans lequel on ne doit pas trouver ça, on ne doit pas pas prendre la place de Dieu, ça peut devenir le lieu de notre réalisation, ou le lieu de notre liberté, ou le lieu d'une nouvelle divinité.
Oui, en fait, il y a une transposition dans la manière de concevoir l'utilisation de ce que Dieu donne. C'est ça, ça devient idolâtre.
Ben, en tout
cas, voilà. C'est au niveau du raisonnement et de la pensée. En fait, ça devient idolâtre, plus que utilitaire.
Ben, le risque, c'est que effectivement, les objets deviennent nos petits dieux du foyer. Enfin,
les réalités voyons ultimes. Notre,
et des réalités ultimes. Ouais, ouais. Et même au quotidien, regardons le rôle que joue notre télé.
L'iPhone.
C'est un peu notre l'iPhone. Comme ça. Là, regarde l'heure. Ouais. L'iPhone, ouais. Je pense qu'on passe. Voilà, la télé allait au centre, là où était peut-être dans les maisons romaines, au centre, il y avait les dieux de la maison. Et là, on y a mis la télé, quoi. Du coup, tu m'as trouvé l'iPhone, je voulais dire autre chose. Oui, parce que avec le risque inverse que pointait lui aussi à un moment, c'est de faire des objets de nous. C'est-à-dire que on va être certains objets ou certaines techniques ou certaines réalités type l'État, la race, etc., peuvent devenir des idoles. Donc devenir des dieux, on peut voir les refuser et se dire bon, on va les remettre à leur place. Le risque étant après, si on est dans une logique de les rejeter absolument comme des choses absolument dangereuses, qu'il ne faut absolument pas toucher, etc., d'en faire des dieux inversés. Où finalement, à force de se dire « oulala, ça c'est vraiment très dangereux », on risque finalement de leur redonner du pouvoir par le rejet qu'on a. Et donc c'est cet appel à mettre à leur place toutes les réalités que nous, comme humains, on peut construire.
C'est le cas de l'outil. Exactement le cas de l'outil. Moi, j'ai toujours des discussions extrêmement difficiles avec mon fils, parce que je dis, pour moi, l'ordinateur, c'est un outil. L'outil est au service de l'homme. Et on a ce renversement où on nous demande toujours de nous adapter à de nouvelles modalités qui sont liées à des progrès de l'outil lui-même. Donc, il y a le renversement. Il est très clair.
Ça, c'est bon. Peut-être qu'on y. Même si je ne pense pas le développer ce soir, mais c'est un des gros éléments de la pensée d'Élu sur la critique de la technique, qui est que. Et qui a inspiré dans la pensée écologiste des gens comme Ivan Illich et André Gors, qui ont cherché justement des seuils. C'est-à-dire, quelles sont les techniques qui, par leur développement, nous font passer des seuils où on n'est plus maître, où c'est plus un outil qu'on contrôle. Mais ça devient effectivement des outils qui partent parce qu'ils se mettent dans une logique de réseau, parce qu'ils prennent de plus en plus de place dans nos vies, parce qu'ils deviennent, ils vont construire un monopole. Le fait que dans un centre de ville, par exemple, c'est plus facile dans un certain nombre de rues de circuler en voiture que de marcher à pied, parce qu'on a élargi tellement. Paradoxalement, plus à la campagne des fois qu'en ville, mais où il n'y a quasiment plus de trottoirs parce qu'on a fait la place d'abord pour les voitures. Et donc des techniques qui vont. Par leur développement, ne plus des outils à notre qu'on va utiliser, mais des outils qui, comme vous disiez, où c'est à nous de nous adapter à leur évolution. Je propose de continuer la lecture. Mais le déblocage était aussi ressenti, et même en même temps, dans la lecture de cette Bible. Ici encore, il y avait deux tendances, complètement hostiles et crispées. D'un côté, le fondamentalisme, l'appel à l'esprit, le piétisme. De l'autre, l'attitude historico-critique, traitant le texte biblique comme un texte quelconque. Barthes arrive en montrant que la critique et l'exégèse ont fait un excellent travail, qu'ils permettent d'approfondir la compréhension de la Bible, d'en renouveler l'interprétation, tout en maintenant que le texte biblique est unique, inspiré, non dans sa lettre, et seul susceptible de nous transmettre une parole de Dieu. Et il montrait comment les deux courants étaient complémentaires. Mais sa façon de lire la Bible entraînait un renversement étonnant. Nous apprenions qu'elle n'était plus le résumé des réponses que Dieu apportait à nos questions, mais au contraire l'interpellation que Dieu nous adresse, la question qui nous est posée et à laquelle nous avons à répondre. Écouter la parole de Dieu, c'est être fait responsable. Ainsi, quand Dieu nous parle, il n'anéantit pas l'homme, ni ne le contraint, mais le libère pour que nous puissions vraiment être responsables de nos décisions. Alors ça, c'est la deuxième partie que je voulais aborder dans la pensée d'Élul. C'est la grande importance qu'il donne à la Bible. Il a écrit une quarantaine d'ouvrages, et là-dedans, il y en a une dizaine qui sont principalement dans les livres théologiques, qui sont principalement des commentaires bibliques. Il y a un commentaire de l'Apocalypse, il y a un commentaire de l'Ecclésiaste, il y a une sorte de commentaires comme ça. Et pendant des dizaines d'années, il a animé dans sa paroisse un groupe biblique. D'ailleurs, il y a eu la traduction, je pense qu'il y a une traduction française depuis, d'un certain nombre de ces groupes, des leçons qu'il avait données pendant ce groupe biblique. Alors, vous voyez que dans ce texte-là, il essaie à la fois de dire, il rend hommage à la fois au travail de ce que peut amener l'exégèse, la critique, etc. Enfin, il dit que ce qui l'a frappé, c'est comment Barthes rendait hommage à l'attitude hystérico-critique, etc. Mais en même temps redisait que ce texte-là n'était pas n'importe quel texte. Et ce balancement, on le trouve vraiment dans la pensée, dans la lecture que fait Élul du texte. Ce qui est frappant, c'est que pour certains textes, il va en avoir une lecture littéraliste, Par exemple, mon grand-père a rencontré une fois, mon grand-père était des Pyrénées-Atlantiques, donc élu qui était à Bordeaux, allait régulièrement marcher dans les Pyrénées avec Charbonneau. Voilà, il y a tout un truc autour aussi du rapport à la nature, dans la montagne, etc. Et une fois, il allait au culte à Salice de Béarn, où mon grand-père l'a rencontré, qu'il l'a rencontré une seule fois. Et élu, dans la discussion, lui dit, mais... comment moi je mange pas de boudin parce que je sais plus quel commandement dans l'Ancien Testament tu ne mangeras pas le sang avec la viande parce que le sang c'est l'âme et donc tu ne mangeras pas l'âme. Voilà, sans doute dans le Lévitique. Et donc il dit ça à mon grand-père et mon grand-père qui fait tuer le cochon tous les ans et faisait du boudin. Voilà, jusqu'à sa mort, il se souvenait de cette phrase d'Élu. Donc là, Élu avait une lecture littéraliste du texte biblique. Et à d'autres moments, il va au contraire avoir une lecture où il va redonner, il va s'intéresser au contexte historique, pourquoi ça a été écrit comme ça, etc., etc. Ce qu'on voit notamment dans Anarchie, christianisme, où il replace Jésus dans le contexte politique de son époque pour voir comment c'est critique des pouvoirs du pouvoir romain. Et qu'est-ce qui fait qu'Élul parfois choisit une lecture littéraliste et parfois choisit une lecture située, etc. C'est qu'en fait, il va chercher à chaque fois la lecture la plus dérangeante. Il va se dire... le contraire de ce qu'on fait sans doute avec facilité, c'est-à-dire un texte dans la Bible nous dérange, c'est le contexte, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, voilà. Inversement, un texte ne nous dérange pas du tout, là on pourra y aller franco pour une lecture littéraliste. Et je ne vous dis pas que je ne fais pas la même chose. Quand il y a un texte de Paul sur les femmes, je me dépêche de le mettre dans le contexte pour dire que ça ne justifie pas la domination des hommes sur les femmes. Par contre, quand il y a un texte du prophète Ésaïe qui en fout plein la gueule aux capitalistes, alors là, je le cite de manière complètement littérale. Donc voilà, on a tous tendance à faire ça. Et Élu, lui, incitait au contraire à faire le contraire, c'est-à-dire à prendre la lecture qui nous dérange le plus. Prendre la lecture qui nous oblige le plus à réfléchir. Donc ça va bien avec ce qu'il dit là dans ce texte-là, c'est comment le livre est pour lui d'abord un livre de la Bible, d'abord un livre des questions, c'est-à-dire un livre qui nous oblige à chaque fois à nous remettre en cause, plutôt qu'un livre dans lequel on trouverait des réponses. Et ça rejoint la question en partie sur la question de la théocratie, du pouvoir ou de la chrétienté, c'est que si on prend... à prendre le livre biblique comme un livre dans lequel on trouve des réponses, on a vite fait de dire c'est la réponse, c'est dans la Bible, c'est Dieu, donc je peux imposer ma réponse au monde entier puisque c'est la réponse que veut Dieu pour le monde. Quoi. Donc l'importance de la parole comme une parole qui questionne. Et une des grosses inquiétudes d'Élul dans l'évolution justement du monde, c'était que la parole, avec un grand P, donc la parole biblique, soit justement écrasée par l'idée de vérité. Alors là, il le voyait assez global, aussi bien dans les positions orthodoxes des religions que comment dans le discours de la société, à des moments, des choses s'imposent comme la vérité, voilà, sur la technique, sur l'économie, sur d'autres choses, comme à un moment, c'est des vérités incontournables. Donc, voilà, cette recherche dans la Bible de ce qui peut nous poser question, et en allant encore plus loin, il cherchait justement dans le texte biblique, dit dans le texte biblique, on a toujours tendance à avoir cherché la cohérence du texte biblique. Et il dit, c'est vrai qu'il y a des thèmes, lui dit, il y a des thèmes où on trouve une relative cohérence. Il dit sur la ville, par exemple, il y a une relative cohérence de la ville, il a critiqué le développement de la ville. Mais il me semblait que lui, ce qui était le plus intéressant, c'était de chercher ce qu'il pouvait y avoir de contradictions. Et notamment, son texte préféré, c'est le texte de l'Ecclésiaste, Coëlette, qui est effectivement un texte qui est en permanence. Qu'un jeu sur plusieurs personnages qui tournent, etc. et où du coup certains auteurs ont voulu découper le texte biblique pour se dire ah ben ça c'est plutôt il y a telle ligne et puis c'est des époques différentes et donc c'est pas enfin, c'est souvent ça pour le texte biblique et donc non il y a plusieurs cohérences et il dit non le texte est construit pour nous obliger à réfléchir dans l'idée de toujours créer la contradiction, toujours ouvrir la réflexion. C'est à mettre en lien avec ce qu'on disait au début sur le fait qu'il construit sa pensée dans les années 30 et que toute l'inquiétude dans les années 30, c'est la montée de systèmes totalitaires qui justement sont des systèmes fermés où il n'y a pas de contradiction, où tout est très cohérent et où il n'y a pas de place pour la dissidence. Et on va le voir, son questionnement, c'est toujours en permanence ouvrir, à chaque fois que les choses paraissent fermées, à toujours réouvrir, recréer des brèches, recréer des ouvertures. Et pour lui, le texte biblique est ce qui permet ça. Pour terminer sur cet aspect biblique, je vous disais qu'il incitait à ce que l'on prenne le texte biblique pour nous contredire dans ce qu'on peut penser. Et c'est pas sûr que Ellul ait toujours fait ça lui-même. C'est-à-dire que dans sa volonté, on parlait un peu des polémiques et puis avoir sur ses prises de position très contre l'islam, sur l'Afrique du Sud ou sur le sida, Ellul avait souvent l'inquiétude que dans le débat public, il y ait une opinion conformiste qui s'impose. Et donc, il voulait se dire « moi, je vais porter la polémique pour éviter l'opinion conformiste qui s'impose. » Alors, parfois, il pouvait aller chercher le texte biblique pour contredire cette opinion dominante. Alors, le problème, c'est que souvent, il n'allait pas toujours chercher justement le texte biblique pour contredire sa propre opinion sur cette question-là. C'est-à-dire qu'on avait un peu l'impression que des fois, pour le coup, il avait déjà une opinion un peu conservatrice sur un certain nombre de sujets. Et là, il allait chercher le texte biblique qui plutôt allait dans son sens. Ce qui fait qu'il avait une lecture, par exemple, sur l'homosexualité extrêmement plate, extrêmement convenue et finalement, à mon avis, extrêmement plus biblique de textes comme Sodome et Gomorre, par exemple. C'était déjà sans doute sa pente naturelle et de la critique de l'homosexualité, et il allait chercher un texte biblique qui allait dans son sens, quoi. Donc voilà, c'est toujours la difficulté à dire prenez le texte biblique pour vous contredire, et puis c'est pas toujours la tendance qu'on a naturellement quand on va chercher le texte biblique, quoi. Est-ce qu'il y a des questions, des éléments là-dessus?
Au fond, je comprends que
de l'humour.
Oui, je ne le ressens pas comme ça. Donc, comment interpréter ce côté provocateur?
Dans ces textes, sont souvent assez sarcastiques. Sont assez sarcastiques et assez moqueurs par rapport au pouvoir en place, etc. C'est quelqu'un qui avait plus une réputation d'avoir pas mal de mauvais caractère. Les textes qu'il a pu écrire étaient quand même souvent assez caustique et assez sarcastique, et il avait vraiment un talent et une volonté d'être polémiste, avec justement cette difficulté qui est que une volonté de prendre le contre-pied de ce qu'il pensait être l'opinion majoritaire, quand dans les années 50 ou 60 la société avait une certaine cohérence qui faisait qu'on pouvait déterminer un conformisme dominant, et que donc prendre le contre-pied du conformisme, on pouvait voir quel était le contre-pied pour ouvrir le débat. Je pense que ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'à partir des années 70-80 la société devient éclatée et ça devient très dur de savoir quelle est l'opinion dominante. Par exemple, quand il prend ses positions sur l'islam, il y a un certain nombre de raisons à ça. à sa critique de l'islam, mais le contexte dans lequel il prend position, c'est à l'époque un premier ministre protestant qui s'appelle Rocard, un ministre de l'Intérieur protestant qui s'appelle Jox, qui commence à organiser l'islam de France et avoir une vision plutôt positive de l'islam. Et donc lui, il se dit, voilà, l'opinion dominante, c'est que l'islam, c'est forcément gentil, il n'y a aucun problème. Donc moi, je prends le contre-pied de ça et je fais un texte au vitriol dans Réforme où il dit notamment, il faut expulser tout musulman qui pourrait vouloir faire du prosélytisme pour sa religion en France. Ce qui est même pas qui prépare des attentats ou qui va amener des jeunes en Syrie et qui veut convertir à l'islam. Il faut l'expulser. Bon. Et là, je pense qu'il a l'impression que parce que c'est Réforme, parce que c'est des protestants, parce que c'est le gouvernement, il y a une opinion dominante très favorable à l'islam, et donc je prends le contre-pied. Sauf que le Front National à l'époque fait des scores assez importants, il y a du racisme dans la société, etc., etc. Donc les réalités, elles sont devenues plurielles, et prendre le contre-pied de ce qu'on pense être la position dominante, des fois, c'est se retrouver sur des positions qui peut-être sont parfois même plus dominantes dans l'opinion moyenne, et ça peut être un peu casse-gueule, quoi. Voilà. Donc c'est les risques de la. Hein, quand on vous. Voilà, c'est très. Il y a un certain nombre de gens maintenant qui se définissent comme politiquement corrects tout en étant sur des positions. Non politiquement corrects tout en étant sur des positions très conservatrices et qui disent oui, je brise l'opinion. L'opinion conformiste qui serait de gauche, libérale, ouverte à tous, etc. Bon, ben, peut-être que. Est-ce qu'il brise vraiment une opinion dominante, ou est-ce que finalement non, parce que les opinions conservatrices qu'il défend sont aussi très répandues chez beaucoup de gens. Voilà, je pense que le rôle du polémiste briseur de conformisme, ça devient quelque chose de très casse-gueule aujourd'hui, quoi.
Vous devez détester la laïcité, alors ?
C'est marrant, parce que non, au contraire, il défend, il se... Alors, il déteste... À un moment, il critique les différentes morales, et il critique effectivement la laïcité comme un laïcisme qui deviendrait une idéologie. Par contre... la position que j'évoquais tout à l'heure de « il n'y a aucune réalité divine dans ce monde », pour lui, il l'a définie comme une position laïque, justement. C'est-à-dire relaïciser toutes les réalités du monde et éviter toute divinisation, mais en disant justement que les divinisations, elles sont en partie faites par aujourd'hui par la société non-croyante qui recrée des divinités en permanence. Il a fait un bouquin qui s'appelle « Les nouveaux possédés », qui est un livre comment, dans les années 70, pour aller contre l'idée qu'il y aurait moins de religions dans la société, où il montre toutes les religions séculières qui se développent, la musique, le sport, toutes ces réalités qui sont des religions des religions séculières, quoi. Vous pensiez à quoi quand vous disiez qu'il aurait dû détester la laïcité ?
Je pense juste à la cohérence qu'il y a entre être ouais. contre l'organisation de l'islam.
Ah oui.
C'est certainement être ouais. contre la laïcité qui est une pensée française assez forte. Donc je me demande à quelle représentation il se fait du pays, de la politique. Ça paraît un peu incohérent.
Je pense que la difficulté d'Ellul, c'est que sur la fin de sa vie, il était. Moins connecté avec la réalité de la société, et que du coup il pouvait effectivement prendre des positions en étant moins au fait de la réalité de la société, qui du coup pouvait le décaler complètement. Je pense que dans les années 50-60, quand il écrit dans Réforme, il est beaucoup plus dans le bain de ce qui se passe. Ellul, il meurt en 94. Il a un purgatoire pendant une dizaine d'années où on ne parle plus de lui. Et l'image qu'il a laissée dans le protestantisme, là, c'est il a laissé l'image d'un vieux con, parce que il a des textes D'ailleurs, si on les relit maintenant, pas inintéressant, où il dit au fusil mitrailleur sur l'art contemporain, contre la musique pop, parce que ça fait juste que hurler dans les oreilles, voilà. Et donc, sur la fin de sa vie, surtout dans un protestantisme qui, dans les 70-80, est toujours dans le camp du progrès, je mets des guillemets partout là-dedans, il apparaît vraiment comme... l'image qu'il laisse à la fin, c'est un peu l'image d'un vieux con.
Élu le réac.
Je pense que c'était, oui, à la fin de sa vie, c'était l'image qu'il avait. Ouais. Ouais. Ce qui est marrant, parce que justement, il a fait qu'il était relu dans les années 2000. Alors, dans les années 2000, il revient dans le circuit, pas avec l'image réac, mais les textes qu'il écrit, d'ailleurs uniquement dans Réforme, et donc plutôt à destination du public protestant, ce que je citais sur l'Afrique du Sud, le sida, etc., vont être remis en circulation par certains, vont dire, voyez, en fait, il est dangereux, il est réac, parce que, regardez, il y a ces textes-là. Mais je pense qu'il est, et en plus, avec une autre difficulté, c'est que, grande partie du fond de sa pensée, c'est une critique de la technique, dans la pensée dominante, critiquer la technique, c'est forcément être réac, parce que critiquer le nucléaire, c'est revenir à la bougie, critiquer, enfin voilà, c'est en plus dans la société française où on a une fierté de la culture d'ingénieur, on n'a pas de pétrole, mais on a plein d'idées pour faire des Concorde qui consomment du pétrole, enfin voilà, des choses comme ça. La critique de la technique est assimilée assez rapidement à une pensée réactionnaire.
En fait, j'arrive pas à comprendre parce que d'un côté, vous parlez justement de ce texte sur la technique. Donc, je comprends que quand même c'était en proposition, puisque à cette époque-là, finalement, les gens ne s'intéressaient pas trop à cette question-là. Et puis d'un autre côté, finalement, il m'apparaît comme quelqu'un qui est juste en réaction, c'est-à-dire qui n'est pas en proposition, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une pensée qu'il analyse comme étant dominante pour se positionner contre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Était-il en proposition ou uniquement en réaction? Et s'il a proposé des choses qui sortaient peut-être du contexte ou qui n'étaient justement pas en réaction, quelles sont-elles? Et s'il était uniquement en réaction, bah, ok.
N'était-il qu'un agitateur d'idées?
Non, parce qu'il a appliqué. Il a fait, je ne sais plus ce que c'était, le mur d'Aquitaine, je ne sais pas quoi. Ils ont mené une action de terrain qui a été vraiment concrète pour s'opposer au grand n'importe quoi qui était envisagé en région Aquitaine. Je ne sais plus ce que c'était.
Alors, c'était dans les années 60, il y avait un grand plan de développement de la côte aquitaine, voilà, dans les Landes, pour faire du tourisme de masse dans les Landes. Ça a été en partie fait, puisqu'il y a un certain nombre de lacs qui ont été construits à l'époque. Et donc, ils ont monté le comité de défense de la côte aquitaine, qui est une des premières mobilisations écologistes. Mais là, on est en contre aussi. Hein, qui a été pour...
Ça corrobore.
Pour, oui, c'est pas dans la
voilà. Alors,
est-ce qu'il propose une sorte de modèle de société? Est-ce qu'il propose un art de vivre ou quelque chose comme ça, en fait, hein?
Alors, je vais...
C'est un peu la critique qu'on fait aussi au roman anarchiste, hein, c'est-à-dire de critiquer, mais d'ailleurs proposer un projet viable.
Alors, dans sa vie personnelle, il a par exemple participé, c'est un des premiers à avoir monté un club de prévention de la délinquance. Ils sont mobilisés sur les questions d'environnement dans le comité de défense de la côte aquitaine. Donc il a eu une action de... Et puis, par exemple, il a été président, je crois, d'une clinique protestante sur Bordeaux, qui a été une des premières, de manière clandestine, à faire de la contraception, etc., quoi. Donc dans sa vie personnelle, il pouvait avoir des aspects plus constructifs. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a deux... Il y a le Ellul qui écrit des livres... là, c'est une pensée très construite, avec beaucoup de lectures, où il y a de chaque fois à la fin, les bibliographies sont monstrueuses. Et puis il y a le Ellul polémiste qui écrit des articles, où là, c'est effectivement beaucoup plus rapide, beaucoup plus en réaction, et où il a souvent du mal à résister à un bon titre et à une formule un peu accrocheuse. Maintenant, sur le fond, je pense que je le prends peut-être sur la fin aussi de l'exposé, c'est que l'inquiétude d'Ellul, c'est l'inquiétude de la fermeture du monde. C'est-à-dire, ça s'est issu sans doute de ces, des années 30, de la montée des totalitarismes, mais aussi dans l'après-guerre, de la place que prend la croissance, la consommation, les objets, etc., de la place que va prendre l'État jusque dans les années 70, où l'inquiétude, c'est que effectivement, le monde soit entièrement fermé et fermé à Dieu, et que les gens ne soient plus que des objets de ces différentes réalités. Donc, son souci, ça va être effectivement, à chaque fois, d'essayer de desserrer ces contraintes-là. Je crois qu'il y a un passage que je voulais vous lire qui illustre, à mon avis, assez bien ça. Voilà, c'est un extrait d'un de ses livres « Politique de Dieu, politique de l'homme » qui a été réédité récemment dans un gros bouquin qui s'appelle « Le défi et le nouveau » dans lequel il y a un certain nombre d'ouvrages. Cet homme n'est pas libre. Il subit le poids de son corps et de ses passions, le conditionnement de la société, de sa culture, de sa fonction. Il obéit à ses jugements et à son milieu. Il est déterminé par sa situation et par sa physiologie. Certes, cet homme n'est libre à aucun degré. Il est esclave de tout, sauf de Dieu. Dieu ne le détermine ni ne le contraint. Dieu le laisse indépendant dans ses conditions. Donc, c'est le mouvement de basculement chez Ellul. C'est-à-dire qu'il y a en permanence la peur de cette. Il y a une critique très violente et très en réaction de tout ce qui peut déterminer l'homme. Pour dire à l'homme, attention, vous croyez que vous êtes libre, mais vous ne l'êtes pas. Alors que l'homme est très imbu de lui-même, très jobard, il dit, mais si, je suis entièrement libre. Donc, il veut l'alerter. Il va l'alerter quitte à exagérer sa critique du fait qu'il n'est pas libre. Et il va dire, mais il y a un lieu où vous êtes libre, et c'est à partir de là que les choses peuvent se passer, c'est que vous êtes libre devant Dieu. Et que... est-ce que c'est à cet endroit-là?
C'est une sorte de bon Dieu mystique, en fait.
Ça pourrait être... c'est à quel endroit? C'est pas là. Donc vous êtes être libre devant Dieu. Et à partir de là, effectivement, il va. Y compris dans une période où ce qui est très dominant, c'est quand même le collectif, etc., redonner à chacun l'idée que l'individu peut... l'individu ou les petits groupes, si on pense à la logique personnaliste où c'est une logique de fonctionner par petits groupes, peut être un lieu de résistance par rapport à cette fermeture. Il écrit « Une seule valeur peut être efficace et nécessaire, c'est la redécouverte de la valeur de l'individu. Et s'il faut aller jusque-là, de l'unique. Tout le reste est conformisme déjà intégré dans le système technicien. Il n'est donc pas question de la personne représentant un ensemble de superstructures philosophiques, mais du fait le plus simple et le plus brut de l'existence de l'homme, seul en face des autres, de son destin, de son milieu, qu'il se sache seul et qu'il juge de toute sa mesure. Nous n'avons pas à travailler, faire des efforts. » Alors ça, c'est plus... Ça, c'est un truc écrit en 1945. Nous n'avons pas à travailler, faire des efforts pour que la justice règne sur terre. Nous avons à être justes nous-mêmes, porteurs de justice. Et l'Écriture nous apprend que la justice règne là où un est juste. De même, nous n'avons pas à nous efforcer par beaucoup de travaux et d'habiletés à faire venir la paix sur la terre. Nous avons à être nous-mêmes pacifiques. Car là où sont les pacifiques, là règne la paix. Toute l'éthique a pour objet non pas d'atteindre un but, mais de manifester un don qui nous est fait de la grâce et de la paix, de l'amour et de la communication du Saint-Esprit. Il va être dans une logique qui est... il va repartir, c'est-à-dire tout nous écrase, et il va repartir d'un point très faible, qui est l'individu, devant Dieu, il est libre, et à partir de là, il peut faire énormément de choses. c'est toute la logique qui va développer autour du thème de l'espérance. C'est-à-dire que il faut l'individu ou l'individu à plusieurs doit ouvrir des brèches, doit faire des sauts. On voyait, on disait que tout voulait être, il me décrivait un monde où tout était fermé.
C'est un peu l'héritage quelque part en face du grand système hegelien, enfin qui prend tout son envol au XXe siècle, la réaffirmation de l'individu, du saut de la foi. Mais il n'y a pas tellement effectivement de pensée, comme tu dis, de proposition, mais la résistance, c'est déjà énorme.
Très existentialiste.
Ah ben, Kierkegaard a inspiré après, c'est une des sources de l'existentialisme. Hein. Et l'espérance, en fait, il décrit un monde très fermé. Il a un livre qui s'appelle L'espérance oubliée. Et il écrit, malgré mon pessimisme bien connu, malgré les analyses sociologiques que j'ai pu faire et qui montrent le caractère implacable du déroulement des systèmes, malgré l'absence de liberté que je vois partout, malgré l'inefficacité de la puissance des moyens humains pour répondre aux vraies questions, malgré les fatalités qui s'enchaînent, malgré cette déréliction de Dieu, je ne suis pas désespéré du tout. Maintenant, au contraire, c'est maintenant dans ces conditions, dans cette situation-là, que l'espérance a lieu. Autrement, elle n'est qu'une petite épice superficielle pour ragoûter la sauce, mais nullement indispensable. C'est maintenant dans ces conditions-là que l'espérance est la force indispensable, qu'elle a sa raison d'être, qu'elle est la vraie nourriture, qu'elle change le pain et le vin de leur sens. Et donc, en fait, il va donc ça c'est la logique d'espérance, c'est-à-dire la logique de faire un saut, si on compte que sur nous-mêmes, on va finalement développer des moyens de puissance. Si je veux moi changer le système, je vais développer un moyen de puissance qui sera créer un parti politique ou créer une entreprise pour faire différemment. Mais il lui dit, dès que vous rentrez là-dedans, vous allez finalement être vous-même pris par les moyens de puissance et finalement récupéré par le système. Et donc, ce qu'il veut faire, c'est en fait, c'est la partie théologique de sa pensée, c'est faire des gestes qui sont des gestes un peu fous pour obliger à ce que Dieu intervienne. C'est-à-dire je vais retrouver la citation, l'idée c'est qu'à un moment, si on compte que sur les forces internes, on n'arrive à rien. Alors ça paraît un peu dingue que Dieu intervienne. Alors comment est-ce qu'il l'entend ? Eh bien, l'espérance a lieu lorsqu'elle évoque et fait apparaître un facteur radicalement différent dans la situation. En face de la violence et de l'oppression ou de la répression, l'espérance, c'est la non-violence, qui, faut-il le rappeler, n'est en rien passivité, résignation, faiblesse, mais affirmation d'une autre dimension de l'homme et d'une haute exigence quand le condamné juge son bourreau. Une espérance qui nous engage dans des actions folles, qui sont seules raisonnables, dans ces connaissances critiques qui sont seules constructives, dans ce décapage impitoyable du réel qui est le seul réalisme. Donc sa démarche, ça va être une démarche d'espérance, au sens tenter des actes fous, qui refusent les logiques de puissance, mais qui s'appuient sur la non-puissance, par exemple la stratégie non-violente, qui vont permettre de maintenir une ouverture dans ce qui est fermé, sachant que pour lui, le modèle... Ce qui est au centre du fait que on peut maintenir l'ouverture, c'est la résurrection. C'est-à-dire que dans le moment de la mort du Christ, tout le monde s'est mis contre le Christ. Les pouvoirs religieux, les pouvoirs politiques, la foule, le peuple l'a abandonné, tout est fermé. Et c'est à ce moment-là que tout paraît complètement fermé.
Il n'y avait que l'armée pour lui. Hein? Il n'y avait que l'armée pour même lui, avec le centurion.
Ah oui, le centurion. Le reste de l'armée l'a amené jusqu'au bout. Dans ce moment-là, où tout a l'air fermé, c'est là qu'il y a la résurrection, ce truc complètement impossible de non-puissance par rapport à la puissance, cette chose complètement folle. Et Lul dit, c'est ce qui permet aujourd'hui, derrière, qu'il y ait des actes fous qui permettent d'ouvrir les choses. Et donc ça veut dire que dans ce cadre-là, le rôle des chrétiens, le rôle de l'Église, le rôle des petits groupes de chrétiens, ça va être non pas de... Alors ça, c'est une critique dans les années 50 par rapport aux chrétiens de gauche qui s'engagent dans les partis et les syndicats, pas juste être une boule de pain en plus à côté de la boule de pain de la gauche, ou même participer à la même boule de pâte, etc., mais être le levain dans la pâte, en tout petit, mais en agissant différemment pour transformer les choses. Et il va, dans Présence au monde moderne, développer l'idée que les chrétiens, plutôt qu'essayer de prendre le pouvoir, aller où, à l'époque, il y a le MRP, qui est le Grand Parti démocrate chrétien, il y a des mouvements issus de l'action catholique, de l'action ouvrière qui s'engagent à gauche, etc. Il va dire non, les chrétiens devraient plutôt développer des styles de vie. C'est-à-dire, et c'est, il va être précurseur finalement de tout ce qu'il va y avoir, dans, à mon avis, dans les années 70, dans l'écologie, les modes de vie différents, des styles de vie qui sont certes minoritaires, mais qui dans la société vont, comme le levain dans la pâte, vont transformer d'intérieur les choses. Donc, la question, effectivement, qu'est-ce qu'il propose ? Il ne propose pas, effectivement, un modèle alternatif, parce que proposer un modèle alternatif, ça serait rentrer, un, dans une logique de puissance, deux, ça serait avoir un système qui reboucle le tout, alors que sa logique, ça va plutôt, effectivement, d'essayer de rouvrir en permanence, de créer des brèches, de créer des contradictions, d'inciter à créer des contradictions pour ouvrir les choses, et donc inciter, par exemple, ce qu'il propose en Présence au monde moderne, inciter à créer des modes de vie différents basés sur la non-puissance, etc. Ce qu'il a essayé dans les années 30 avec autour du mouvement personnaliste, puis ça n'a pas fonctionné parce que le mouvement personnaliste et la critique qu'il en fait est trop intellectuel. Donc créer des modes de vie qui, eux, peuvent être transformateurs de la société.
Et alors, excusez-moi, mais cet appel à la responsabilité individuelle explique certainement qu'il y a un impact important aux États-Unis, au moins dans une partie des États-Unis, parce que je crois qu'il avait parmi ses élèves des jeunes Américains, et qu'il y a un mouvement assez vivant, enfin il est assez connu aux États-Unis.
Ben c'est pas mal de ses livres ont été traduits aux États-Unis. Il est plus, enfin maintenant, il est à nouveau connu en France, mais quand justement il était un peu oublié, on disait qu'il était plus connu dans les facs américaines qu'en France, à la fois sur sa critique de la technique, mais sans doute aussi parce que ça rejoint un peu plus des choses dans la culture américaine d'individualisme, mais de la dissidence aussi, c'est-à-dire la capacité de petits groupes à vivre des modes de vie alternatifs pour se séparer de la société. Donc la dissidence, c'est un thème d'ailleurs très protestant.
Vous avez une question, je crois.
Non, parce que je me demandais le fondement en fait de ce que Hélu développe là, le fondement théologique de ce qu'il développe sur cette manière de vivre en puissance, etc. C'est vraiment un modèle à l'image du Christ, à l'image de la vie du Christ. Hein. Donc, vous diriez ça ou pas ?
Est-ce qu'il se réfère vraiment à la vie du Christ ?
Eh bien, étonnamment, il ne se réfère pas trop. Il y a très peu de références au... globalement,
du Christ en tant que Jésus, quoi.
Il n'y a pas tant de choses que ça en termes de les actes et les paroles. Il va y avoir une philosophie générale du Christ en termes de non-puissance. Il va y avoir le Christ comme le refus des pouvoirs, le refus de devenir quelqu'un de puissant. Une grosse insistance sur la résurrection. Je pense qu'il se méfiera de quelque chose qui serait de l'ordre de l'imitation, tel qu'on peut le voir dans une certaine tradition, je sais pas, par exemple monastique, etc. Il aurait, à mon avis, assez rapidement peur qu'il y ait un conformisme, quoi. Donc, ce ne sera pas de l'ordre de l'imitation, ça sera plutôt s'inspirer profondément à la fois de la résurrection comme quelque chose qui peut renverser ce qu'il peut y avoir d'évident, d'absence totale d'espérance, etc. Et puis, le Christ comme non-puissance active. C'est là qu'il fait le lien avec la non-violence que l'on peut penser à Luther King ou à Gandhi. C'est-à-dire comment la non-puissance, c'est le fait d'opposer la faiblesse à la force, le fait d'opposer les démarches non-violentes à la puissance de militaire, par exemple, peuvent être, avoir un effet de renversement de ce qui est en face.
Et ça, à la limite, on le voit encore mieux dans son commentaire de l'Apocalypse, où il utilise à la fois la figure du Christ, mais surtout de l'agneau, en fait, et qui va pouvoir neutraliser les cavaliers, les puissances, dragons, bêtes, etc. Où il fait une critique de toutes ces puissances dont tout parle. Mais pas forcément, effectivement, le Jésus qu'on imagine avoir foulé les routes de Jérusalem, de Galilée, etc.
Est-ce que c'est ça? Est-ce que Jacques Ibel a exprimé un point de vue sur les Mormons, les Quakers, ou justement ces petites communautés qui ont l'air de ressembler beaucoup à ce qu'ils préconisent en termes de style de vie?
Eh bien, j'ai pas vu grand-chose de lui là-dessus. Ce qui est drôle, c'est qu'inversement, les Ménonites, qui sont qui sont dans cette sensibilité-là, hein, puisque c'est les Amish qui sont la tendance, qui sont dans la même famille que Ménonites, s'inspirent beaucoup il y a beaucoup de lectures d'élus chez les Ménonites, notamment par cette dimension de non-puissance. C'est drôle qu'il n'ait pas plus parlé des Quakers, parce qu'effectivement, les Quakers, dans la dimension d'engagement pacifiste et non-violent, sont allés assez loin.
Ouais.
Hein?
Oui. Ils refusent beaucoup toutes ces techniques industrielles.
Oui. Alors les Amish, c'est un peu compliqué. C'est paradoxal, parce que les Amish, j'avais fait un texte pour la revue Entropia, la revue La Décroissance, j'ai appelé Faux Amish. Parce qu'en fait.
C'est son côté lulien et les bons mots et les bons titres.
Voilà. J'avais du mal à résister. Parce que justement, quand j'avais ça chez les Amish, je me disais, on va trouver une critique de la technique. Et donc, est-ce que les raisons pour lesquelles les Amish n'utilisent pas la technique, c'est une critique de la technique? Et en fait, oui et non. Ils critiquent surtout la technique parce qu'ils veulent pas rentrer. Ils veulent surtout d'abord se couper du monde. Et que donc, par exemple, ils veulent pas être le moins possible en lien avec le monde. Parce qu'eux, ils sont la vraie église sans rides. Et le monde, c'est l'église qui a dégénéré. Et par exemple, s'il y a très peu d'électricité, c'est que pour avoir beaucoup d'électricité, il faudrait être relié au réseau électrique, donc relié au monde en réseau avec le monde. Alors que comme ils doivent eux-mêmes, ils ont l'électricité Amish, c'est-à-dire qu'ils produisent comme de l'électricité en gros avec des générateurs, quoi, où ils mettent de l'essence et puis ils font l'électricité. Bon, mais on peut pas en produire suffisamment pour. Enfin, ça coûte très cher si on veut avoir les frigos, la clim, la télé, etc., etc. Et que donc de fait, ça limite une partie de leur usage technique. Après, ils vont refuser, par exemple, les caméras, les appareils photo, parce que se représenter, ça serait se faire des représentations de soi-même, ça dégonflerait beaucoup trop l'ego. Et par exemple, ils n'ont pas de vélo parce que ça va trop vite. Et que du coup, si on y va. Alors après, il y a certains ordres Amish qui ont des voitures, bon, c'est une autre question. Parce qu'il y a plein de scissions chez les Amish, donc certains ont des voitures quand même. Parce que si on va. Et dans ce cas-là, on ne croise pas son voisin et donc ça coupe le lien social. Alors que si on est à pied, on discute avec tous les voisins qu'on rencontre. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une critique de la technique, en partie, dans ce qu'ils font, mais les motivations sont souvent plus pas grossir l'ego, que l'individu soit moins important que le collectif, rester coupé de la société, et c'est plutôt ces éléments-là qui expliquent leur non-utilisation des techniques qu'une volonté, par exemple, de cultiver de manière bio en respectant... La planète, c'est plutôt des conséquences écologiques avec des motivations qui ne sont pas forcément. Quoi.
Comment est-ce que tu définirais chez Ellul le devant Dieu? Est-ce que c'est. Ah ouais, non, mais il faut y aller. Est-ce que c'est le croyant face à un texte biblique, comme il vient du personnalisme? Est-ce que c'est le visage de l'autre porté à l'universel? Est-ce que c'est la figure du plus faible? Est-ce que c'est une idéologie quand même qui traîne et à laquelle il se réfère? Est-ce que c'est une croyance dans un être surnaturel qui viendrait intervenir dans ce monde pêcheur?
Je pense que c'est beaucoup la Bible. C'est beaucoup, il rencontre beaucoup Dieu, je pense, dans la Bible. Parce que c'est vraiment... On sent qu'il est... Enfin, il raconte que... Il est devenu croyant seulement au moment de l'adolescence, mais qu'il lisait la Bible depuis l'âge de 8 ans, Et vraiment, il n'a pas arrêté de la lire et de travailler. Donc, je pense que Dieu, il le voit intellectuel. Je pense qu'il y a une grosse démarche intellectuelle quand même, et qui passe par le travail de texte biblique. C'est vrai qu'il y a quasiment pas. Alors pour moi, comme pasteur en mission populaire, c'est très important la figure de l'autre, et en particulier effectivement la figure en particulier de l'autre, quand il est très différent, quand il est exclu, etc. Donc pour moi, c'est très présent. Pour lui, je crois très peu, et je pense que c'est quelque chose, et c'est quelque chose d'un vis-à-vis.
Ça rejoindrait peut-être l'idée de la théonomie,
sans en avoir une image précise. Quoi. Ouais. Quelque chose qui pourrait être dans la prière, mais sans forcément en avoir une image. Quoi. Je pense qu'il y a quand même un vis-à-vis où il a Dieu devant lui. Il ne le dit pas dans les textes, mais ça donne cette impression-là quand même.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait le qualifier d'opportuniste en fait?
Pourquoi?
Ben parce qu'en fait, il ne propose pas un modèle, parce que proposer un modèle, ce serait finalement céder à ce qu'il critique. Mmh. Et du coup, il serait un peu, alors peut-être pas réact, mais réactif en tout cas, à saisir les, alors pour le dire positivement, à saisir les kairoi, à saisir les instants, à saisir les moments. Mmh. Et à se dire, bon ben voilà, en fonction de ce qui est présent, je fais au mieux avec ce qui est donné. Mais sans me dire, je mets en place... une sorte de plan ou de mécanique, parce que justement, ça serait un problème par rapport à ce que je combats.
Alors,
à la fois, oui, on pourrait... Ce qui lui permettrait de contempler les petites abeilles qui butinent, comme Calvin, etc.
En fait, ce qui est... oui et non, c'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que finalement... Je disais que les choses évoluaient beaucoup et il n'y avait plus beaucoup de... Comme il n'y avait pas de conformisme, on avait du mal à savoir... Pas de conformisme dominant, à quoi de quoi prendre le contre-pied. Et en même temps, moi j'ai l'impression que quand même des années 30 à aujourd'hui, il y a quelque chose qui reste quand même assez dominant, c'est la notion de puissance. C'est-à-dire que même si dans les années 30, c'était l'État qui pouvait représenter la puissance... Aujourd'hui, j'ai l'impression que la technique, le marché représentent des puissances. Et que donc, finalement, c'est opportuniste parce que ça a changé de forme, on doit réagir à des choses différentes. Mais que finalement, Ellul pourrait être très, très cohérent, avec une ligne très droite, en disant ces réalités-là sont changeantes dans leur forme, mais en permanence, elles ferment le monde, elles veulent nous conformer, elles veulent nous occuper avec leurs objets, leurs idoles, etc. Et donc en permanence, et c'est en ça oui, qu'il est peut-être réactif, en permanence, comment on ouvre des brèches, on ferme, on refuse, on essaie de créer des styles de vie différents, comment on doit opposer la non-puissance à ce qui est la puissance permanente de tous ces pouvoirs-là. Quoi. Non.
Il y a le mot institué, enfin, il se méfie de tout ce qui est institué. Et tout ce qui a tendance à se pérenniser dans une institution, quelle qu'elle soit, il s'en méfie. Et alors c'est très paradoxal parce que son background, c'est d'être historien des institutions. Il a formé des générations de juristes à l'histoire des institutions de l'Occident. Mais il est toujours déverrouillé en permanence. Institué, quel qu'il soit. Même dans la résistance, elle s'établit trop. C'est un pur anarchiste, quelque part.
Il dit à un moment, si un chrétien, un chrétien peut soutenir des réformes ponctuelles, demander des choses, des modifications, des nouvelles lois, etc., mais dit qu'il les aura obtenues, il devra repasser dans l'opposition.
Vous avez une question? Bon, bah. Bon, non, allez-y. Puis ma réélection ensuite.
Vous avez dit en commençant que vous insistez sur l'aspect théologien des bulles. Comment vous qualifieriez cette théologie finalement? Quelle est la pointe de cette théologie?
Alors déjà, je pense que c'est... Je ne l'ai pas dit, mais ça c'est aussi très bartien. C'est une théologie dialectique. À la fois dans le sens où elle fait un aller-retour permanent entre la théologie et la réalité sociale. l'un est lu, l'un doit être lu par l'autre en permanence. Je crois qu'il y a un endroit que le risque d'être que dans le spirituel et que dans le théologique, c'est de s'échapper du monde et de pas s'intéresser au monde. L'inverse, d'être que dans le monde, c'est d'y être prisonnier et d'avoir le nez dessus et d'être emprisonné par le monde, et que il faut en permanence interroger l'un par l'autre. C'est dialectique aussi parce que, comme on le voit,
Interroger l'un par l'autre toujours dans le même sens ou les deux? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste interroger le monde à la lumière des questions bibliques ou c'est aussi réinterroger notre interprétation biblique à la lumière de notre expérience?
Aussi les deux.
Parce que Barthes est quand même assez dans un seul sens. Hein.
Oui.
Assez lui, il est, il est corrélatif plutôt.
Ouais. Ouais. Je pense que ça serait plus
un dialogue entre les deux.
De toute façon, oui, parce que on lit le texte biblique aussi avec ce qu'on est, mais effectivement, il serait du coup peut-être plus corrélatif que
Barthes,
qui est plus directement inductif. Ouais.
Déductif.
Ouais. Déductif, oui. Inductif dans l'autre sens. Ouais. Alors que Casalis, qui était barthien, était clairement inductif. Mais. Donc
dialectique.
Théologie dialectique, théologie de la non-puissance. Tu dirais quoi, Jean-Pierre?
Je dirais la décroissance.
Ouais, mais alors ça.
Tout ce qui est institué et qui a tendance à se déployer doit être.
Alors ça serait.
Ouais. Ça, c'est de la récup.
En même temps, Ellul était tellement critique des théologies de la Révolution, c'est-à-dire comment la théologie, à un moment, était compagnonne de route d'un courant politique, qui m'est ô combien sympathique, mais compagnon de route d'un courant politique. Je pense que si on disait théologie à la décroissance, on risquerait d'en faire sa théologie compagnon de route d'un courant politique, même s'il nous est très sympathique. Ô combien.
Tu as juste Marie-Lix d'abord.
Moi, je me demande s'il croyait vraiment que son système, enfin, cette idée marcherait, parce que finalement, est-ce que c'était pas une manière pour lui de ne pas, enfin, en ne prenant pas vraiment position pour un système, est-ce que c'était pas une fuite, parce que finalement, une fois alors qu'on arrive à ce qu'il propose, ça devient le modèle dominant, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi aller contre. Est-ce que finalement, il n'y a pas un petit peu de cette idée de se dire, on ne veut pas instituer un système, parce que finalement, si on décide que ça devienne un système, ça veut dire qu'il faudra aller contre, puisqu'il est tout le temps dans la contradiction, peut-être que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne va pas jusqu'au bout. Donc ma question après de fond, c'est de dire, mais peut-être qu'il n'y croyait pas vraiment. Parce que sinon il faut faire jusqu'au bout.
Je crois que son expérience, c'est ce que disait un peu Jean-Pierre, c'est comment quand les choses s'installent et tournent mal. Obligatoirement, et que ça fait même partie de la, enfin, tourne mal, ou en tout cas elles sont décevantes, elles s'installent, elles trahissent leurs promesses, etc. Et c'est le propre de l'institution, et il faut faire, je dirais, enfin, faut faire avec, mais faut faire contre, dans le sens où je pense que c'est un thème qui est toute l'histoire du protestantisme, comment on recommence en permanence. Et comment c'est aussi important qu'il y ait des gens qui soient dans l'institution à la faire tourner, mais comment c'est extrêmement nécessaire qu'il y ait des gens à l'extérieur des institutions pour essayer de la déverrouiller en permanence.
En fait, il est vraiment sur le modèle du prophète, qui est le contre-pouvoir du roi.
Oui, il est complètement sur le modèle du prophète, qui est le pouvoir, oui, complètement.
Alors, il y avait juste une question là, et puis une dernière question après, ou une réaction.
Et juste une phrase là-dessus, ce que je viens de dire, c'est moi je suis assez engagé dans la politique au niveau local, au niveau municipal, et ce qui manque, moi je suis pas élu, je suis dans
ça évite de défendre les bilans.
Non, c'est plus compliqué. Mais ce qui manque souvent au niveau local, c'est des vrais contre-pouvoirs. Et que même, je suis allé à Nice, 7000 habitants, c'est tout petit, etc. Et ben même, et la municipalité, c'est une municipalité écolo, citoyenne, dans une dynamique très particulière. Et ben en même temps, ce qui leur a manqué pendant la dernière mandature, c'était une vraie opposition qui fasse son boulot. Et la municipalité qui est actuellement à l'Issanie, elle est issue d'une association. Et tout le boulot qu'on est en train de faire dans l'association actuellement, c'est la reconstruire comme un contre-pouvoir pour, par rapport à la municipalité. Et contre-pouvoir, c'est aussi être capable d'avoir, c'est pas seulement négatif, c'est aussi avoir des idées, inventer des choses, etc., etc. Et je pense que c'est aussi, voilà, le c'est aussi utile que d'être dans faire tourner l'institution. Et je pense que théologiquement, Jésus ou le prophète sont plus dans cette position-là, ils sont pas dans la position effectivement de choisir un système, quoi.
La posture en fait qui vient d'être évoquée, ouais. C'est vraiment la posture de l'historien des institutions. Parce que la première chose qu'on apprend en histoire du droit, c'est que l'histoire est une nécropole d'institutions. On voit les institutions succéder, les régimes succéder, et on sait qu'ils ont tous un degré d'imperfection, et quoi qu'il arrive, dès qu'ils démarrent, ils ont déjà leur germe de mort à l'intérieur. Donc quelque part,
c'est intéressant.
Un anarchisme théologique rejoint aussi sa première culture scientifique, qui est celle de l'histoire des institutions.
Et c'est très intéressant, merci.
Tout ce qui naît meurt.
C'est pas simplement parce que les institutions sont appelées à mourir, etc. Mais je pense que l'idéologie du christianisme, le cœur du christianisme, qui fait qu'une institution, le christianisme, c'est sans cesse la surprise, c'est sans cesse remarquer les cas. C'est sans cesse. Alors il faut des institutions, mais en même temps, il ne faut pas des institutions. Je veux dire, le christianisme, il nous met dans cet entre-deux avec le curseur simplement en remplacé. On a besoin d'institutions. Et attention, des institutions, ça peut être dangereux. Et voilà, il y a un livre que je trouve remarquable. Je suis loin d'avoir lu les 43 livres de Zellul. J'ai picoré ici ou là. Mais il y en a un que j'ai lu qui est remarquable, je trouve, c'est la subversion du christianisme. Parce que il me semble qu'il va au cœur de ce qui nous préoccupe tous, c'est cet enjeu de cette foi que je trouve très très actuel et où il montre justement comment les choses sont toujours à reconstruire, à renouveler, et ce retournement du christianisme, il fait que tu croyais à quelque chose et puis voilà, c'est complètement différent. Et il me semble que là, on touche quelque chose qui touche la prédication que vous faites de tous les dimanches. C'est-à-dire qu'il y a toujours à reprendre, à être surpris, et à continuer. Ce livre m'a beaucoup touché.
Le boulot est assuré.
Il y a des amis, et ils ont toujours réagi extrêmement positivement et d'une manière enthousiaste. Vous seriez d'accord sur pour dire que ce livre est important,
quoi. Oui, moi je pense que c'est un, dans ceux qu'on peut lire pour rentrer pour lire du Ellul un peu théologique, il y a celui-là, la subversion du christianisme, et puis l'espérance oubliée, qui pour moi sont voilà, les deux plus intéressants sur l'aspect théologique, et puis sur la technique, le système technicien, celui qui est entre les deux. Non, c'est le système technicien, c'est le premier, ou le... Zut. Il y en a trois. Il y a le bluff technologique qui est le dernier. Je crois que le système technicien qui est le... Voilà. Alors, c'est le premier. Donc, c'est le système technicien, oui, qui est le plus... qui est moins... Voilà. Le premier est un peu daté. Le système technicien, c'est celui qui fonctionne le mieux. Enfin, qui est encore le plus actuel. Je pense que pour la question pourquoi est-ce qu'il ne propose pas un système, c'est aussi que pour un chrétien et pour lui, je pense que ce qu'on attend, c'est le royaume de Dieu. Et là, ça sera le temps où il n'y aura vraiment plus d'injustice, où il n'y aura plus de pleurs, où, etc., etc. Et ce qu'il voit dans l'histoire, c'est que ce qui fait le lien entre la critique que fait Barthes du libéralisme du début jusqu'en 18 et la critique que fait Ellul des théologiens de la Révolution, c'est cette même si c'est plus fin que ça, mais c'est cette illusion que le royaume les hommes pourraient l'installer ici. C'est-à-dire que la critique que fait Barthes d'un certain libéralisme du 19e siècle et du début du siècle, c'est Dieu, ça peut s'incarner dans la raison, dans le logos, et finalement dans l'État allemand qui déclare la guerre en 14. D'ailleurs, c'est un théologien qui écrit la déclaration de guerre à l'empereur, quoi. Et donc l'idée que Dieu pourrait s'incarner ici dans un système, et inversement tu parlais du prophète, l'illusion messianique qui a nourri en partie le mouvement socialiste communiste, c'était le royaume de Dieu, on peut l'installer ici, ça s'appelle le socialisme. Et donc, il a, je pense que lui, il a en tête toute cette histoire-là, d'où son, il voit comme un risque l'idée qu'on pourrait installer, qu'il pourrait y avoir un système chrétien, il a la chrétienté aussi en tête, mais qu'il pourrait y avoir un système chrétien qu'on arriverait qu'on donnerait clé en main, parce que le royaume de Dieu, il est de l'ordre de l'eschatologie, et c'est Dieu qui l'amènera, et c'est pas nous. Par contre, on peut faire en permanence des brèches, on peut anticiper le royaume, on peut avoir des gestes de non-puissance qui fait que on vit vraiment le message du Christ, et que là, on fait des provocations à Dieu pour lui dire bon alors, tu l'amènes enfin ce royaume, et que c'est ça notre aussi ça notre rôle de chrétien.
Moi, je trouve que le rôle du chrétien est difficile à la base. En tout cas, à certains moments de vie, c'est pas évident. Et un ami prêtre me disait, tu sais Jacques, être chrétien, c'est ne pas oublier aussi que c'est être martyr. Ça me pose un problème, ça. Autrement dit, on dit le royaume de Dieu, tout ce qui va venir, c'est super, etc. Voilà, la route pour y aller, et quelquefois, on fait la Syrie, pour y marier, plein d'autres frères, d'autres lieux, etc. Enfin, il y a plein de questions là-dessus. Pour faire prévaloir cette parole, de temps en temps, c'est dur. Est-ce qu'il dit quelque chose là-dessus? Moi, quand j'avance dans la vie, on est à l'heure évident, on dit, voilà, ça a compté, ça pèse, c'est pas évident, juste la blessure est encore là, ou elle vient de se représenter, des choses comme ça. Quoi. Il en parle de ça?
Il n'y a pas de mise en avant du martyr, il y a quelque chose de très fort sur... la non-violence, la non-puissance, et être faire ce qu'il faut faire, quoi. Mais c'est vrai que je me souviens pas qu'ils disent particulièrement qu'il faille aller. C'est vrai qu'elle les imagine après des gens comme Gandhi ou Luther King, voilà, ils sont allés jusqu'au bout et ça leur a coûté la vie. Il n'y a pas d'insistance sur une dimension de martyr, où il n'y a pas du tout de dolorisme chez lui.
C'est pas martyr dans le sens dolorisme. Quelquefois, le chemin passe par des
défilés
étroits.
C'est le Golgotha.
Ouais. Bah après, pendant la guerre, il a pris des risques et il a été révoqué de son poste de prof de droit pour avoir critiqué Pétain. Donc ça veut dire qu'il prenait les risques qui lui semblaient nécessaires de prendre, quoi.
Alors je propose que si vous voulez continuer à en discuter avec Stéphane, on puisse le faire tranquillement. Quelques papiers pour vous rappeler les prochaines dates. Mardi prochain, ici même, c'est le pasteur Brice Desmier, qui est l'aumônier national des prisons, qui nous parlera de la justice restaurative, et la question de la sanction. Le mois prochain, c'est le professeur Raphaël Picon qui te succédera pour présenter James Cohn et la théologie noire. Et le mercredi 4 juin, eh bien, c'est John Shelby Spong qui se présentera lui-même, venant tout droit des États-Unis. Ça sera en face dans le temple pour vous présenter notamment son dernier ouvrage, enfin le dernier ouvrage publié en français, Jésus pour le 21e siècle. C'est cette approche, alors là pour le coup, franchement libérale, comment penser Jésus avec nos catégories du 21e siècle. Et c'est tout à fait recommandable. Vous aurez un des grands théologiens du 21e siècle sous les yeux, à portée de main. Vous pourrez même le faire signer aussi son ouvrage, comme pour Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci à vous.